l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restive de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 9 novembre 2011. Faut-il croire aux univers parallèles? Depuis une trentaine d'années, les concepts d'univers parallèles et de multivers occupent une place croissante en physique et en cosmologie. Certains théoriciens envisagent même que de nouveaux univers se créeraient en permanence, voire qu'il y aurait un processus de sélection naturelle assurant une plus grande prolifération des univers. Thomas Lepelletier, historien et philosophe des sciences, chargé de cours à l'Université d'Oxford, répondra à cette question de ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Alors je vais d'abord commencer par remercier Henri Reboul d'avoir joué un rôle important dans mon invitation ici à Montpellier. Je remercie aussi bien sûr l'association Agora, l'Agora des Savoirs. Alors pour faire juste écho à ce que vient de dire Henri, je vais essayer de faire fructifier toute réflexion et toute incertitude dans notre rapport au cosmos ce soir. Et on va donc s'interroger sur les univers parallèles. On peut aussi parler d'univers multiples et on peut parler de multivers. Alors, comme l'a souligné Henri, il est évident que si vous prenez le concept d'univers pour la totalité de ce qui existe, toute cette discussion n'a plus de sens. Donc il faut toujours avoir un sens restreint du mot univers. Mais je ne vais pas vous donner une définition de ce que c'est qu'un univers, puisqu'il y a plusieurs modalités du concept d'univers. Et ce qu'il faut juste retenir pour l'instant, c'est que le multivers recouvre l'ensemble de ces univers qui peuvent exister suivant plusieurs modalités. Donc je vais vous présenter quelques modalités en essayant de replacer ça très rapidement dans un parcours historique. Dans une trame historique, et on se posera bien sûr la question après ce qu'il faut en penser. Mais avant de se demander s'il faut y croire ou pas y croire, il faut savoir de quoi l'on parle. Alors, pour commencer cette conférence sur les univers parallèles, je ferai un petit détour par le Fort du Taureau, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est dans la baie de Morlaix, dans le Finistère. C'est une forteresse qui servait de prison au XIXe siècle, dans laquelle a été enfermé le célèbre révolutionnaire Louis-Auguste Blanqui. En 1872, Louis-Auguste Blanqui, seul prisonnier dans cette prison forteresse, une garnison entière était là pour le surveiller, trouve l'énergie de publier un petit livre qui s'appelle « L'éternité par les astres ». Dans ce livre, il cherche à démontrer rien de moins que notre éternité, en s'appuyant sur des concepts de l'astronomie. Et Louis-Auguste Blanqui va faire des raisonnements assez simples qui ont des conséquences étonnantes. Il part d'un univers infini. Premier postulat qu'il pose, il dit pourquoi l'univers serait... Il ne peut pas concevoir un univers qui serait fini, donc il se dit le seul concept cohérent d'univers, c'est un univers infini. Il imagine aussi un univers éternel, puisqu'il ne conçoit pas que l'univers n'ait pu exister. Donc il part d'un univers éternel et infini. À partir de là, il réfléchit sur la constitution de la matière. Depuis peu, les astronomes avaient remarqué que l'ensemble de la matière que l'on peut observer dans l'univers est constitué des mêmes atomes que ceux qui sont sur Terre. Le nombre de briques élémentaires de la matière est fini. Ce sont les atomes de carbone, d'hydrogène ou tous les autres atomes que vous connaissez dans le tableau de Mendeleïev. Le nombre d'atomes est fini. Mais le nombre de types d'atomes, pardon, est fini. Mais le nombre d'atomes, lui, est infini. L'univers étant infini, il y a donc une infinité d'atomes, mais un nombre de types d'atomes fini. Alors, juste avec ces hypothèses de base qui sont élémentaires, il fait un petit raisonnement et il se rend compte qu'il existe une infinité d'Auguste Blanqui au même moment en train d'écrire le même livre dans l'univers. Comment ? Il arrive à une conclusion comme ça, c'est relativement simple. Si vous prenez deux dés, par exemple, qui vont donc avec des numéros qui vont de 1 à 6, vous les jouez, imaginons que vous tombiez sur la combinaison 3-4. Vous rejouez plusieurs fois de suite, vous allez à un moment donné retomber sur la combinaison 3-4. Et ainsi de suite, vous continuez à jouer, vous allez retomber sur la combinaison 3-4. Si vous jouez une infinité de fois, si c'était possible, vous retomberiez une infinité de fois sur la combinaison 3-4. Auguste Blanqui se dit... Je ne suis qu'une combinaison d'atomes. Mes atomes, j'ai des atomes de carbone, d'hydrogène ou autres qui constituent mon corps. Ils sont positionnés les uns par rapport aux autres, mais c'est une combinaison d'atomes. Dans un univers infini, cette combinaison d'atomes se répète nécessairement à l'infini. Première conclusion d'Auguste Blanqui. Ensuite, il se dit, oui, d'accord, il y a une infinité d'Auguste Blanqui en train d'écrire le même livre au même moment dans l'univers. Mais il se dit, j'aurais pu ne pas être attrapé par la police pour être mis en prison. C'est-à-dire, il y avait d'autres possibilités. Si c'était du possible, à partir du moment où c'est possible, quand vous avez une infinité, quand vous avez l'univers entier, toutes les combinaisons probables se réalisent un jour ou l'autre. Donc non seulement il y a une infinité d'Auguste Blanqui en train d'écrire le même livre dans l'univers, mais il y a une infinité d'Auguste Blanqui à avoir échappé à la police. Et il y a une infinité d'Auguste Blanqui à avoir choisi un autre destin que celui de la révolution politique. Donc deuxième conclusion, tous les possibles se réalisent dans l'univers. Ensuite, il se dit, oui d'accord, je suis en train d'écrire ce livre-là maintenant, mais j'aurais pu commencer à l'écrire il y a une heure, il y a deux heures. Et qu'est-ce qui fait que dans l'univers, si tous les possibles se réalisent, ben, il y a pu avoir un autre, les autres Auguste Blanqui ont pu commencer une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes, et ainsi de suite, après moi. Donc finalement, il existe une infinité d'Auguste Blanqui non seulement échelonnés dans l'espace, mais aussi échelonné dans le temps. Donc Auguste Blanqui en arrive à la conclusion qu'il est éternel. C'est la science des astres qui lui apprend ça. Alors ce petit livre a été réédité, je vous invite à le lire. Et le raisonnement de Blanqui, bien sûr, peut paraître troublant et suscite un certain nombre de questions. Pour l'instant, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le raisonnement de Blanqui, ce qui a changé par rapport à la cosmologie moderne, c'est que l'univers maintenant a un commencement. Mais à part ça, donc il n'y a peut-être pas une éternité d'Auguste Blanqui, mais le raisonnement au niveau de l'infinité des Blanqui, des Auguste Blanqui, tient toujours. À partir de ce raisonnement d'Auguste Blanqui, on peut définir un premier concept d'univers parallèle ou d'univers multiple. On va définir dans des régions de l'espace, des très grandes régions de l'espace, qui n'ont pas pu être liées causalement. Ce qu'on entend par là, liées causalement, c'est-à-dire que des régions de l'espace qui n'ont pas pu interagir entre elles. Donc il ne peut pas y avoir de liens causaux entre une partie et une autre. Et on peut donc définir des régions de l'espace dans lesquelles les mêmes configurations se répètent. Donc vous prenez un espace plat à travers l'espace. Vous imaginez que très loin, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière, vous pouvez multiplier bien sûr les milliards, il va y avoir ce soir des gens comme vous et moi en train de faire une conférence, à écouter le même orateur dans la même salle, avec les mêmes habits. Ils seront vous, quelque part, dans l'univers. Alors, pourquoi s'intéresser à ces mondes multiples et à ces spéculations? Une des premières raisons, c'est celle que j'ai évoquée, c'est que ça suscite une question existentielle. Que faire, que penser de ces doubles de soi-même, de cette infinité d'être identique à nous-mêmes à travers l'espace? On peut les oublier, mais savoir ou supposer qu'ils existent peut être troublant, et il peut y avoir une interrogation à ce sujet. Ça peut aussi susciter des questions scientifiques. Depuis quelques siècles, vous savez que la démarche, l'histoire des sciences a régulièrement décentré la position de l'homme. La Terre était le centre du monde, elle est devenue une planète autour, une planète pas quelconque, mais une planète autour du Soleil. Le Soleil était donc devenu le centre du monde. Ensuite, le Soleil, ou le système solaire, est devenu un système solaire au sein de la galaxie. Depuis le XXe siècle, la galaxie est devenue une galaxie au sein de plusieurs milliards de galaxies. La question qui se pose maintenant, au XXIe siècle, c'est est-ce que finalement notre univers ne serait-il pas un univers parmi d'autres univers? Et puis cette question, de façon peut-être surprenante, surgit à propos de questions théologiques. Alors si je peux me permettre, puisque je profite de cette audience nombreuse, de faire un peu de publicité, il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur les controverses à propos de la question de l'évolution. C'était un livre d'histoire des sciences qui essayait de reprendre ces controverses, la retracer l'histoire de ces controverses. Et en faisant ce travail, je me suis aperçu que le même type de controverse réapparaissait à propos des univers parallèles ou des univers multiples. Et il y a donc un nouveau débat théologique au sein de la cosmologie que je vais résumer très simplement là, où il y a une tendance, je dis bien, je parle d'une tendance, à avoir d'un côté les athées qui vont avoir tendance à être favorables à l'hypothèse du multivers. Et vous avez d'un autre côté un certain nombre de croyants qui, au contraire, ont tendance à privilégier l'hypothèse de l'univers unique. Alors je vais vous donner deux exemples de personnalités connues dans le monde éditorial. La première, c'est Richard Dawkins, biologiste célèbre, auteur d'un best-seller « Pour en finir avec Dieu », vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Richard Dawkins s'appuie explicitement sur l'hypothèse des univers multiples pour critiquer l'hypothèse d'un créateur. En face de lui, à niveau plus modeste, puisqu'on reste à un débat national franco-français, un certain John Stone, auteur lui aussi d'un best-seller au niveau français, qui s'appelle « Notre existence a-t-elle un sens ?», va au contraire critiquer l'hypothèse des univers multiples pour justifier son argument en faveur de l'hypothèse d'un créateur. Donc nous irons voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut penser de ce combat théologique à propos des multivers. Mais je voudrais avancer un peu dans la présentation des différentes modalités des multivers et comment cette réflexion sur les multivers est apparue au cours de l'histoire. Alors un tout petit rappel historique, Henri tout à l'heure en début de conférence a évoqué Anaximandre. Il y a effectivement dans l'Antiquité un certain nombre d'auteurs qui ont défendu la thèse de la pluralité des mondes. Je cite là les atomistes. Et pourquoi on peut dire que les atomistes ont défendu la thèse de la pluralité des mondes? Il faut savoir que pour un atomiste, le cosmos, c'est l'ensemble des choses que l'on peut percevoir. L'ensemble des étoiles que l'on voit forment notre cosmos. Elles forment un tout. La cosmologie des atomistes, c'est une cosmologie où il y a une unité du cosmos. Le cosmos est un tout. Mais en même temps, Ils disent explicitement qu'au-delà de ce tout, il pourrait y avoir d'autres tout. Donc il y a vraiment une pensée d'une pluralité des tout. Chaque cosmos est une unité et il y a d'autres unités au-delà. Donc on a vraiment là, dans la pensée antique, un concept de multivers ou d'univers multiple. Cette thèse des atomistes va être combattue par Aristote. Alors je ne rentre pas dans les arguments qu'il met en avant, mais Aristote, pour développer sa physique, pour expliquer le mouvement des corps, va trouver un certain nombre d'arguments pour réfuter l'hypothèse des mondes multiples. La thèse des mondes multiples, après, pendant plusieurs siècles, je dirais, n'a pas une grande audience, mais on la voit réapparaître de façon intéressante au XIIIe siècle dans des réflexions théologiques. Le XIIIe siècle est l'époque où on assiste sur un plan théologique à une réaffirmation de la toute-puissance de Dieu. Si Dieu est tout-puissant, rien ne devrait l'empêcher de créer plusieurs univers. Donc la pensée théologique au XIIIe siècle vient à l'appui de la thèse des multivers. Après, je ne vais pas retracer toute l'histoire, disons que la thèse des univers multiples disparaît un peu, on est beaucoup plus dans une réflexion sur la pluralité des mondes, on est plus sur une réflexion sur l'existence d'autres êtres humains sur d'autres planètes. La pensée moderne, la pensée sur les multivers, va réapparaître avec Blanqui, comme je l'ai cité, mais principalement au XXe siècle, dans le cadre de la mécanique quantique, à partir de 1957. Elle va réapparaître aussi dans le cadre de ce que j'appelle les raisonnements anthropiques. On parle souvent de principes anthropiques, l'expression raisonnement anthropique me paraît plus appropriée. Elle réapparaît aussi, cette pensée des univers multiples, dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de l'inflation. Dans le cadre, c'est un élément, la théorie de l'inflation est quelque chose qui intervient dans le cadre du modèle du Big Bang. Enfin, cette pensée des univers multiples réapparaît dans le cadre de la théorie des trous noirs. Alors, je vous ai déjà évoqué le premier concept d'univers multiple dans le cadre de la pensée d'Auguste Blanqui. Je vous propose de passer en revue rapidement les quatre autres modalités de la pensée des multivers. Alors, le hasard historique fait qu'on va commencer par la mécanique quantique, 1957. C'est le plus gros chapitre, je dirais, le plus dur à avaler. La mécanique quantique est toujours très difficile à comprendre. Alors, je vais présenter quelques concepts, bien sûr, de mécanique quantique. Tout le monde n'est pas spécialiste de mécanique quantique, donc je vais faire très simple. Mais ceux qui ne sont pas spécialistes de mécanique quantique, ne vous dites pas que vous n'allez rien comprendre. Parce que c'est vrai, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut savoir que, aussi éminent serait un physicien, il n'y comprendrait rien non plus. Personne ne comprend rien à la mécanique quantique. Donc s'il y a un moment de ma présentation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-vous que tout le monde est dans la même situation que vous. D'accord ? Donc je pense que, ceci étant dit, je pense qu'il va falloir juste suivre la logique de mon raisonnement. Et je pense que celle-là, même s'il y a des zones d'ombre, elles sont normales. Tout le monde est devant cette incompréhension. Alors, la mécanique quantique, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va te confronter à ce qu'on appelle le problème de la mesure. Derrière cette appellation, il y a un petit problème, on va dire un gros problème technique. Je vais, par exemple, prendre un objet qu'on appelle un objet quantique. C'est quoi un objet quantique? Pour simplifier, c'est un objet microscopique, pour simplifier. On va imaginer que cet objet puisse être dans deux états différents. Alors, j'ai pris un exemple très simple, je pense qu'il n'y a pas de problème. On imagine une particule qui pourrait tourner dans un sens ou dans un autre sens. Comme vous voyez, elle tourne sur elle-même dans un sens ou dans un autre sens. Tout le monde, je pense, n'a pas de problème à comprendre ça. Alors, la logique, notre bon sens nous fait dire que la particule, s'il y a deux possibilités, soit elle est dans un sens, soit elle tourne dans un sens, soit elle tourne dans l'autre sens. C'est la logique de tous les jours. Malheureusement, les physiciens, pour des raisons X ou Y, vont arriver à la conclusion que l'objet quantique, la particule, est dans les deux états à la fois. Personne ne comprend rien, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc ceux qui ne comprennent pas n'ont pas à être inquiétés, personne ne comprend ce que ça veut dire. Mais c'est ça, Donc il faut accepter cette idée que une particule puisse être dans deux états à la fois, c'est-à-dire tourner dans un sens et tourner dans l'autre sens en même temps. Bien sûr, personne n'a jamais observé une particule en même temps qui tournait dans un sens ou dans un autre sens. Donc il y a un problème. Il y a un problème, mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on observe la particule, on va dire qu'on va effectivement observer que l'objet est dans un seul état. Alors comment on passe d'une situation où l'objet est dans deux états à une situation où l'objet est dans un état ? Alors les physiciens vont utiliser une expression, alors c'est un peu un jargon, il faut apprendre du vocabulaire, ils vont parler de ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est quoi ? C'est l'expression mathématique qui permet de décrire la particule. Pourquoi effondrement ? Mais parce que la fonction d'onde, puisque c'est ça qui permet de décrire la particule, va exhiber les deux états dans lesquels se trouve la particule. Elle va exhiber l'état où la particule tourne dans un sens et l'état où la particule tourne dans l'autre sens. Ces deux états vont bien sûr faire partie de la fonction d'onde. Et puis quand on mesure, la fonction d'onde s'effondre au sens qu'on obtient une particule dans un état. Voilà la mécanique quantique. Si vous acceptez ça, vous avez tout compris en mécanique quantique, c'est-à-dire rien compris comme tout le monde. Là-dessus, ça pose quand même problème. Ça pose problème et c'est absurde. Cette situation est absurde et pour montrer l'absurdité de la mécanique quantique, un célèbre physicien va faire une expérience de pensée. C'est l'expérience, le fameux chat de Schrödinger. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'histoire de ce pauvre chat qu'on a maltraité depuis des dizaines d'années, vous imaginez que dans une boîte, vous mettiez une entité radioactive, un matériel radioactif. Cette entité radioactive va soit se désintégrer, soit ne pas encore être désintégré. Donc il y a deux états possibles, désintégré, pas désintégré. Vous mettez un compteur Geiger dans cette boîte et branché ou installé en rapport avec ce compteur Geiger, vous mettez un marteau qui peut, si le compteur Geiger détecte une radioactivité, laisser tomber le marteau sur une fiole où il y a du poison. Évidemment, si le marteau tombe, le poison se répand dans la boîte et le chat meurt. Si le marteau ne tombe pas, le chat reste vivant. Comme l'élément quantique est dans les deux états à la fois, vous suivez le raisonnement, le marteau il est à la fois en haut, position haute, à la fois position basse, et le pauvre chat, il est à la fois mort et à la fois vivant. Alors ça, c'est le paradoxe du chat de Schrödinger. Les physiciens de la mécanique quantique ont du mal, bien sûr, à trouver la logique de tout ça. Mais au niveau de leurs expériences de tous les jours, dans leur laboratoire, bien sûr, ils ne mettent pas des chats dans une boîte, donc ça va. La mécanique quantique, même malgré cette absurdité, fonctionne très, très bien. Donc pour beaucoup de physiciens quantiques, ils préfèrent laisser ces questionnements de côté et faire leur besogne de tous les jours qui, elle, ne pose pas de problème. Mais arrive en 1957 un jeune physicien, je dis jeune parce qu'il était en train de faire sa thèse, Hugues Everett. Je mets entre parenthèses un autre nom, c'est juste pour les spécialistes, s'il y avait des spécialistes dans la salle ce soir. Ce que je vais dire, c'est un peu, je vais faire une synthèse entre ce que vont dire Hugues Everett et Brice DeWitt, et pour justement la conclusion à laquelle je vais arriver, ça sera la synthèse de ce qu'ils tous les deux ont dit. Pour la simplification, on va imaginer que c'est Hugues Everett qui en arrive uniquement à ce résultat. Hugues Everett va faire deux constats. Il va faire un premier constat, c'est que la mécanique quantique marche très bien. Donc il se dit, on n'a pas besoin de rajouter cette espèce de postulat de l'effondrement de la fonction d'onde. Si la mécanique quantique nous dit que le chat il est dans deux états, le chat il est dans deux états. Point à la ligne. Voilà le raisonnement du bon physicien qui croit à la science qu'il fait. Il n'y a pas de raison de rajouter un élément qui ne fait pas partie de la théorie, qui en plus, comme je vous ai dit, c'est un postulat qu'on rajoute après coup à la théorie. Et puis il fait un autre constat. Puisque le chat, comme on ne l'a jamais observé, mort et vivant, ça veut dire que souvent, quand on voulait, si le chat était mort et vivant avant qu'on l'observe, le moment où on l'a observé, on a soulevé le couvercle, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour qu'il soit dans un état mort ou vivant. Donc il faut, pour comprendre que le chat puisse ne nous apparaître que soit mort, soit vivant, il faut qu'il y ait eu un extérieur à l'expérience, à la boîte du chat. Mais il dit, oui, d'accord. Mais si je prends l'univers dans sa totalité, ben, l'univers, il est fait d'entités quantiques, donc c'est une entité quantique. Mais il n'y a pas d'extérieur à l'univers. Donc c'est absurde. Il ne peut pas y avoir, si je prends l'univers, d'effondrement de la fonction d'onde. Il ne peut pas y avoir donc des situations où on ne se trouve que dans un chat, avec un chat mort et un chat vivant. Donc Hugues Everett va abandonner le postulat de l'effondrement de la fonction d'onde, il dit c'est pas joli, et il va imaginer un monde où à chaque fois qu'il y a une interaction quantique, il y a une fission du monde entre deux mondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Relativement simple, vous imaginez, vous mettez votre chat dans votre boîte, vous fermez le couvercle, et qu'est-ce qui se passe ? Le monde se sépare en deux univers. Et vous, vous vous retrouvez dans les deux univers, bien sûr, si c'est vous l'observateur. Dans un univers, vous ouvrez le couvercle de la boîte et vous êtes avec un chat mort. Dans l'autre univers, vous ouvrez le couvercle de la boîte et vous êtes avec un chat vivant. Voilà le concept d'univers parallèle dans le cadre de la mécanique quantique. C'est, selon certains physiciens, l'interprétation la plus cohérente de la mécanique quantique. Maintenant, nous étions en 1957, j'en arrive au début des années 70. Au début des années 70, de plus en plus de physiciens constatent que l'univers serait extraordinairement ajusté au développement de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'univers est défini par un certain nombre de paramètres, on va dire la masse, par exemple, des particules élémentaires, l'intensité de certaines interactions fondamentales. Et si vous changez d'une toute petite quantité la valeur de ces paramètres, l'univers ne serait plus propice au développement de la vie. Prenons la masse du proton, vous la faites varier, mais vraiment d'une quantité infinitésimale. À ce moment-là, votre univers, alors par exemple, le taux d'expansion aurait été trop rapide pour que des planètes se forment, ou la vie des étoiles aurait été trop courte pour que la vie se forme sur des planètes, ou même l'univers se serait tout de suite, après le Big Bang, se serait tout de suite contracté sur lui-même de sorte que la vie n'aurait pas pu se développer. Il y a beaucoup de configurations comme ça, où en changeant la valeur d'un paramètre, mais d'une infime quantité, on s'aperçoit que les modèles ne conduisent pas à un univers où la vie aurait pu se développer. Donc là, ça pose un problème aux physiciens dans les années 70. Ils se disent, on pourrait se dire, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. L'univers, finalement, on n'en sait rien d'où il vient. Il aurait pu être comme ça, et puis on oublie, on ne se pose pas la question inintéressante. Il est comme ça parce qu'il est comme ça. Mais c'est une attitude que n'aiment pas trop les physiciens. Ils n'aiment pas le « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Donc ils vont chercher une explication. Alors l'explication qu'ils ont trouvée, c'est l'explication en termes d'univers multiple. Pourquoi univers multiple ? Le raisonnement est assez simple, je vais faire une petite analogie. Si vous jouez par exemple au loto et que vous gagnez, bon, vous êtes content, mais si on vous dit juste après que vous ayez gagné, que vous étiez la seule personne à avoir joué au loto, à ce moment-là vous dites « c'est louche ». Quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous dire, quelque part, j'ai été la seule personne à jouer au loto et j'ai gagné. Alors là, vous allez soupçonner quelque chose, une farce, ou si c'est vrai que vous avez gagné vraiment au loto, vous allez dire, quelque part, on a trafiqué le loto pour que je gagne. Mais si on imagine, s'il y a eu un grand nombre de personnes, comme ça se fait toutes les semaines, à jouer au loto, vous dites, il y a beaucoup de gens à avoir joué au loto, il n'est pas surprenant qu'une de ces personnes ait gagné, il se trouve juste que c'est moi. C'est tout. Mais au niveau, il n'y a rien de surprenant à ce que quelqu'un gagne au loto. Vous êtes content que c'est vous, mais ça ne pose pas de problème conceptuel. Si vous êtes la seule personne à jouer au loto et que vous allez jouer au loto, la seule personne à aller jouer au loto et que vous gagnez, ça devient surprenant. Donc dans les années 1970, les cosmologistes vont commencer à développer ce concept d'univers multiple ou parallèle uniquement pour des raisons que je dirais d'ordre épistémologique, pour rendre, je dirais, normal ou non surprenant l'extraordinaire ajustement des paramètres de l'univers au développement de la vie. Alors à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'univers multiples à se mettre sous la dent. Donc ils ont recouru au concept d'univers multiple ou parallèle d'Hugues Everett. Mais aussitôt avoir fait cette démarche, de façon après coup, il va y avoir un certain nombre de personnes qui disent « Ouais, attention, finalement, il y a une autre explication. C'est le recours à l'ajusteur. Si l'univers est extraordinairement ajusté au développement de la vie, c'est qu'il y a peut-être eu un ajusteur qui a développé, qui a ajusté les paramètres de l'univers pour que la vie soit propice. » C'est donc depuis ces années 1970 que le débat entre univers parallèle et Dieu est apparu dans la cosmologie. Donc, deuxième modalité, je dirais, très épistémologique du recours au concept d'univers parallèle. Alors, ceux qui ont développé cette idée d'univers parallèle, comme je vous l'ai dit, ils avaient dans les années 1970 que l'univers parallèle d'Hugues Everett à se mettre sous la dent. Heureusement pour eux, ils vont avoir dans les années 80 d'autres modalités d'univers parallèle. Ces autres modalités d'univers parallèle viennent de la théorie de l'inflation. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez sur la théorie du Big Bang, mais la théorie du Big Bang rencontrait quelques problèmes dans les années 1970. Et des physiciens se sont dit, pour résoudre ces difficultés dans lesquelles je ne rentre pas, ils ont imaginé qu'au tout début de l'univers, le taux d'expansion de l'univers aurait été très différent de celui qu'il est de nos jours. Alors je vous ai représenté un petit schéma qui représente de façon symbolique, hein, ce n'est pas une photo de l'univers, certainement pas, mais c'est un schéma symbolique du processus d'expansion de l'univers. Nous sommes sur la droite, d'accord ? L'origine de l'univers, c'est à gauche. Vous voyez que globalement, la forme globale de ce schéma, c'est un cône, c'est-à-dire que globalement, l'espace grandit, il y a une expansion de l'espace quand on va de la gauche vers la droite. Mais vous voyez que ce taux d'expansion, on va dire qu'il est, bon, il est régulier et il n'est pas dramatique. Mais regardez ce qui se passe au tout début de l'univers, c'est-à-dire à gauche, là où c'est marqué inflation. Le taux d'expansion est très, très rapide. Vous voyez que le cône, sur un espace de temps très, très court, puisque la ligne horizontale représente le temps, dans un temps très, très, très court, l'univers... le facteur d'échelle de l'univers va être multiplié par des quantités gigantesques, beaucoup plus grandes relativement à la multiplication du facteur d'échelle sur ce qui vient après cette période inflationnaire. Alors c'est ça la théorie de l'inflation, c'est un processus physique qui va engendrer ce qu'on appelle une expansion exponentielle à l'univers. Alors, d'accord, quel est le rapport avec les univers parallèles ? Alors, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Cette théorie de l'inflation, symboliquement, ça peut changer beaucoup notre conception du cosmos. Parce que c'est le terme d'expansion, quand on parle d'expansion de l'univers, ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent les unes des autres parce qu'elles bougent. C'est l'espace qui est en expansion, les galaxies restent où elles sont. Donc finalement, il faudrait plutôt traduire le terme expansion par le terme dilution. La matière se dilue à travers le temps. Mais si vous avez un processus de dilution gigantesque au début de l'univers, ben quand il y a trop de dilution, il n'y a plus de matière. Et c'est ce qui s'est passé au tout début de l'univers. Quand il y a le processus inflationnaire, la dilution gigantesque au début de l'univers a engendré une disparition de la matière. Et donc la matière de notre univers, d'où elle vient ? Elle vient d'une transformation au niveau énergétique, parce que vous savez, on l'a souvent dit, que E égale MC2, donc que l'énergie est équivalente à la matière. La fin du processus inflationnaire, vous voyez, quand le cône commence à avoir un mouvement régulier, la fin du processus inflationnaire, va correspondre au moment où la matière de notre univers apparaît. Symboliquement, ça veut dire que si nous sommes nous serions les petits-fils du Big Bang et les fils de l'inflation. Nous sommes, vous voyez, il y a la séquence, quelque part, au niveau de la matière de notre univers est le fruit du processus inflationnaire. Et avant ce processus inflationnaire, il y avait le Big Bang. Alors voilà où en sont arrivés les physiciens au début des années 80. Mais rapidement, ils vont se rendre compte que ce processus inflationnaire, il n'y a pas de raison qu'il soit uniforme, qu'il se produise de la même façon partout et à tout moment. Et donc ils vont se dire, oui, ce processus inflationnaire qui se développe dans l'univers, ben, il s'arrête à certains moments, à certains endroits, et là où il s'arrête, à l'endroit où il s'arrête et au moment où il s'arrête, ça correspond à la naissance d'un univers. Donc ça change un peu la conception que l'on peut avoir de l'univers. L'univers, désormais, il faut plutôt le voir comme un processus inflationnaire. On parle d'une mer inflationnaire. Il y aurait une expansion gigantesque qui se produirait de l'espace. Et à certains endroits, à certains moments, ce processus inflationnaire s'arrêterait. Et là où il s'arrêterait, il y aurait des univers. Donc nous serions dans un univers qui apparaîtrait en permanence, dans une mer inflationnaire, notre univers ne serait qu'un univers qui serait apparu dans cette mer inflationnaire. Mais au moment où je vous parle, il y aurait une multiplicité d'univers qui continuerait à apparaître. Voilà un autre concept de multivers ou d'univers multiple qui apparaît dans le cadre de la cosmologie moderne. J'en viens au dernier concept que je voulais évoquer ce soir, de multivers ou d'univers multiple, il apparaît dans le cadre de la théorie des trous noirs. Alors, la théorie des trous noirs remonte bien sûr au-delà des années 1990. Hein, dès 1915, on établit la possibilité d'un trou noir. Mais c'est à partir des années 1990 que certains physiciens vont faire un rapprochement analogique entre un trou noir et un univers. Ils vont se dire, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ils vont dire que finalement, quand on regarde bien, un trou noir, c'est un peu comme un univers. Je vais vous donner juste une analogie pour ne pas trop creuser la question qui demanderait autrement des longs développements. L'univers, ben il va dire, dans un modèle du Big Bang classique, il va naître d'une singularité, ce qu'on appelle d'une singularité de l'espace-temps. C'est le moment où, si on remontait le temps, toutes les distances diminueraient. Et à force de diminuer, elles atteindraient un point. L'univers serait compris dans un point. Donc ça, c'est le Big Bang, et on va dire, dans une version donc, de la cosmologie, que l'univers naît d'un point. Qu'est-ce qui se passe au cœur d'un trou noir ? Le même processus. C'est la matière qui s'écroule jusqu'à ce qu'on appelle singularité de l'espace-temps. Donc certains physiciens vont se dire, pour d'autres raisons aussi, qu'il y a une similarité entre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, cette singularité, et un univers. Et ils vont alors développer un raisonnement. Ils vont se dire, si chaque univers crée des trous noirs, si notre univers, pardon, crée des trous noirs, il y a donc plusieurs trous noirs dans notre univers. Si chaque trou noir crée un univers, à partir de notre trou noir, il y a plusieurs univers. Pardon, excusez-moi. À partir de notre univers, il ne faut pas se perdre là-dedans. À partir de notre univers, il y a plusieurs trous noirs, donc il y a plusieurs univers. Et à partir d'un certain nombre d'arguments, ils vont se dire quels sont les paramètres de ces nouveaux univers. Ils vont dire qu'ils vont être proches des paramètres de notre univers, mais quand même un petit peu différents. Alors les univers qui sont apparus à partir de notre univers, il va y en avoir certains qui auront des paramètres propices à la formation de trous noirs et d'autres paramètres non propices à la formation de trous noirs ou moins propices. Les univers qui sont apparus à partir de notre univers, ceux qui ont des paramètres davantage propices à la formation des trous noirs vont produire davantage de trous noirs. C'est normal. Et le mécanisme, le raisonnement va se répéter. Dans ces nouveaux univers qui étaient propices à la formation de trous noirs, il va y en avoir qui vont avoir des paramètres encore davantage propices au développement des trous noirs. Donc, dans ces nouveaux univers, il va y avoir encore davantage de trous noirs. Et à chaque fois comme ça, on assiste à une prolifération d'univers favorables au développement des trous noirs. Et puis, par un autre raisonnement, ils vont dire finalement un univers qui est favorable au développement des trous noirs, par une coïncidence, c'est aussi un univers qui est favorable au développement de la vie. Pourquoi ils font cette analogie? C'est qu'ils disent, pour des raisons techniques, un univers qui est favorable au développement de la vie, c'est un univers qui typiquement a des étoiles d'un certain type, qui ont une durée de vie donnée, qu'il ne faut pas qu'ils aient des durées de vie trop courtes, etc., etc. Donc ils vont faire des analogies et ils vont faire le constat que finalement, plus un univers est favorable au développement des trous noirs, plus il est favorable au développement de la vie. Donc ils vont trouver, ils vont appeler ça un processus aussi de sélection naturelle des univers, ce qui est un terme un peu pas approprié, mais c'est le terme qu'ils utilisent, au sens où il y a un mécanisme de l'univers pour que des univers de plus en plus propices au développement de la vie apparaissent. Et donc ça permet de répondre au problème des raisonnements anthropiques que je vous évoquais tout à l'heure. Pourquoi ou comment expliquer que notre univers soit extraordinairement ajusté au développement de la vie? Eh bien, dans la mécanique de l'univers, il était, selon ses auteurs, normal qu'on arrive à une situation où l'univers est propice au développement de la vie. Voilà donc les modalités. Je vous ai présenté quelques modalités de concepts d'univers parallèle ou d'univers multiple qui sont actuellement développés par des physiciens théoriciens. Alors, après cette présentation, la question qui se pose, c'est finalement que penser de ces spéculations? Alors, il y a des controverses d'ordre épistémologique. Ce que j'appelle controverse épistémologique, c'est beaucoup de gens refusent le concept d'univers parallèle ou le concept d'univers multiple. Pourquoi? Ils vont dire que ce n'est pas de la science. C'est pas de la science, et pour justifier cette affirmation, ils vont s'appuyer souvent sur le philosophe Karl Popper. Karl Popper avait dit dans les années 30 qu'une théorie scientifique, pour être une théorie scientifique, une doctrine ou une théorie doit être réfutable. Donc, en gros, vous devez pouvoir montrer que la théorie est fausse pour être scientifique. Si vous ne pouvez pas montrer que la théorie est fausse, c'est de la métaphysique. C'est autre chose que vous voulez, c'est du délire, c'est de la religion, mais ce n'est pas de la science. Et donc un certain nombre de personnes se disent, ces spéculations sur les univers parallèles, ce n'est pas de la science, puisqu'on ne peut pas réfuter, on ne peut pas observer un univers parallèle, jamais personne n'a observé, et c'est forcément dans une autre dimension, c'est forcément trop loin dans l'espace pour qu'on puisse l'observer, c'est dans la structure inflationnaire, c'est au-delà de tout ce qu'on pourrait, dans la mer inflationnaire, c'est au-delà de ce qu'on pourrait être en interaction. Donc il y a quelque part, par principe, l'univers multiple, tous les univers multiples dont je vous ai parlé, ceux qui sont dans les trous noirs. Par définition, un trou noir, ça ne se voit pas. On ne peut pas avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Donc tous les concepts d'univers dans lesquels je vous ai parlé, on ne peut pas avoir accès à ces univers parallèles. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas mettre en gros des appareils de mesure pour vérifier qu'ils existent bien. Donc ce n'est pas de la science. Voilà l'argument souvent des gens qui récusent le concept d'univers parallèle. Alors les promoteurs, parce qu'il y a des promoteurs du concept d'univers parallèle, vont dire non, vous vous méprenez sur la philosophie de Karl Popper, sur le principe de réfutabilité. Karl Popper n'a jamais dit que toutes les conséquences d'une théorie doivent être réfutables. Et là, j'ai utilisé un mot, c'est le mot « conséquence ». Parce que tout bien réfléchi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ce n'était pas des théories, même si j'ai utilisé le mot « théorie ». Ce n'était pas des théories des univers multiples. La théorie de l'inflation, par exemple, que j'ai citée, n'est pas une théorie des univers multiples. C'est une théorie qui s'inscrit dans le cadre du modèle cosmologique du Big Bang. Une des conséquences de cette théorie est qu'il existe des univers parallèles. Donc il y a une distinction entre la théorie est la conséquence de la théorie. La théorie de Newton, elle est réfutable. On pourrait la réfuter facilement ici. Mais je ne peux pas réfuter toutes les conséquences de la théorie de Newton. Je ne peux pas réfuter la façon dont elle va se comporter à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière. Je ne peux pas, vous voyez, réfuter toutes les conséquences d'une théorie. Donc, les promoteurs du modèle du Big Bang font bien la distinction entre théorie et conséquence d'une théorie. Or, ils disent, les théories qui sont à l'appui, qui nourrissent cette idée d'univers parallèle ou d'univers multiple, sont des théories réfutables. La théorie de l'inflation, qui est donc utilisée, par exemple, dans le cadre de la cosmologie actuelle, est une théorie réfutable. Et de fait, les physiciens essayent de la réfuter. Ils envoient des observatoires dans le ciel, pardon, des télescopes dans le ciel pour observer bien sûr le ciel, voir si la théorie de l'inflation est réfutée ou pas. Donc, vous voyez, pour les promoteurs des univers parallèles et des univers multiples, il n'y a pas de différence de statut entre le concept d'univers parallèle et d'autres concepts scientifiques. Ce sont des conséquences de théories réfutables, et donc en tant que telles, on n'a pas à les exclure au nom du principe de réfutabilité de Karl Popper. J'en reviens aux controverses théologiques. Est-ce que le croyant doit avoir peur des univers parallèles? Et est-ce que l'athée doit s'en réjouir? Alors il se trouve qu'il y a des croyants qui ont peur du concept d'univers parallèle. Je vous ai cité Jean Stone qui explicitement réfute ce concept. Et il y a des athées qui s'en réjouissent. Je vous ai cité Richard Dawkins. Je dirais qu'il faut peut-être mettre un peu de l'eau dans le vin des uns et des autres. Parce que finalement, d'accord, comme je vous l'ai montré par ce rappel historique, sur un plan théologique, on peut très bien imaginer qu'un Dieu tout-puissant, comme l'ont fait les théologiens du Moyen-Âge, ait créé une multitude d'univers. Et puis, au niveau de l'athéisme, vous voyez, effectivement, l'hypothèse du multivers permet de trouver une explication à l'extraordinaire ajustement des paramètres de l'univers. Mais on peut très bien imaginer que ça n'enlèvera rien au questionnement du croyant qui s'interroge sur le pourquoi, non pas de l'univers, mais du multivers dans ce cas-là. Donc je pense que c'est une querelle qui n'a pas beaucoup de sens ou qui n'a pas l'acuité que voudraient lui donner ceux qui interviennent dans cette querelle. Alors maintenant, la question fondamentale, la question qui faisait le titre de mon séminaire, c'est finalement, faut-il croire au multivers ? Alors, je vous ai dit que les multivers étaient des conséquences de théories scientifiques. Donc, l'argument qui consisterait à les réfuter au nom de la réfutabilité, au nom du critère de Karl Popper, n'est pas aussi solide que certains voudraient le faire croire. Mais ce n'est pas parce que ce sont des conséquences de théories scientifiques qu'il faut y croire. Après tout, les scientifiques font des erreurs. Il y a des théories scientifiques fausses. Donc, on pourrait se dire, finalement, on pourrait être sceptique vis-à-vis des univers parallèles. On pourrait dire, oui, bon, ça, c'est un peu du délire de physicien, et puis on pourrait laisser ça de côté, d'accord ? On peut dire, oui, de toute façon, moi, on ne les voit pas. Moi, je suis plutôt empiriste, moi, je suis plutôt observateur, je ne crois qu'à ce que je vois. Alors, je ne suis pas complètement convaincu que cette position soit cohérente. Pas convaincu pour une raison simple, je ne crois pas que la plupart des gens ne croient que à ce qu'ils voient. Moi, je n'ai jamais vu d'atome, j'y crois. Et je pense qu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, un certain nombre de physiciens, maintenant les moyens technologiques ont évolué, le concept de voir un atome a un peu changé, mais il était évidemment au début du XXe siècle, on ne voyait pas d'atome. Je crois qu'il était raisonnable de la part de certains physiciens de croire à l'existence d'atomes, puisque tout simplement, ça leur permettait de trouver des explications pertinentes d'un certain nombre de phénomènes. Et puis finalement, le Big Bang, vous ne l'avez jamais vu. On n'a jamais observé le Big Bang. Ça n'empêche pas beaucoup de gens d'y croire. Pourquoi le concept d'univers parallèle serait-il différent ? Le Big Bang est une hypothèse qui permet d'expliquer beaucoup d'observations. Eh bien, l'hypothèse des univers parallèles ou des univers multiples, qui est une conséquence de théorie qui permet d'expliquer beaucoup de phénomènes, a finalement un statut similaire. Et comme la théorie, par exemple, de la cosmologie, les théories cosmologiques sont des théories solides, on pourrait se dire qu'il est quand même raisonnable de croire à ces univers parallèles ou ces univers multiples. Et puis je vous rappellerai que pour avoir une multiplicité d'univers dans le sens où je l'entends, il suffit d'avoir un espace infini. À partir du moment où j'ai un espace infini, il y a une infinité de moi à travers l'espace et une infinité de vous. L'hypothèse d'un espace infini n'est pas une hypothèse farfelue. C'est une hypothèse raisonnable, même si, bien sûr, on ne sait pas si l'univers est infini ou s'il est fini. Mais donc, finalement, vous voyez, l'hypothèse de l'univers parallèle et l'univers sceptique, pardon, et l'univers multiple, n'est pas si farfelue que ses contempteurs le prétendent. Donc je vous inviterai pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à mettre de côté l'option sceptique. Et donc finalement d'en arriver à ce qu'on appelle l'option réaliste en science, c'est considérer que finalement les théories qui marchent bien, mais elles représentent la réalité telle qu'elle est. La théorie du cosmos actuelle, la théorie du Big Bang, qui a au sein d'elle-même inclus la théorie de l'inflation, est une théorie de l'univers qui marche relativement bien. Donc on pourrait se mettre finalement à considérer que ces théories des univers parallèles ont le même statut que la théorie du Big Bang, par exemple. Et que donc on pourrait se mettre raisonnablement à y croire. Et pourtant, ça pose un petit problème. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Alors un petit problème qui n'est pas d'ordre scientifique, qui est philosophique. La vie, finalement, serait désespérante. Pourquoi la vie serait désespérante ? Hier matin, j'ai pris mon train pour venir à Montpellier. Et comme tous les matins, j'ai du mal à me lever. Sachant qu'il était possible que je me lève ou que je ne me lève pas, j'avais deux alternatives. Rester au lit ou me lever. Si je donne du crédit à l'idée qu'il y a une infinité d'autres moi dans d'autres univers, et que ces infinités d'autres moi réalisent tous les possibles qui leur sont offerts, il y a une infinité d'autres moi à s'être levé, et une infinité d'autres moi à être resté chaudement sous la couette. Alors, finalement, pourquoi me lever s'il y a une infinité d'autres moi qui vont venir à Montpellier, moi ? Moi, je vais rester là, sous mon lit. Dans mon lit, pardon. Donc finalement, vous voyez, ce concept d'univers parallèle et d'univers multiple, ce n'est pas du tout un argument scientifique que je vous donne, mais c'est quelque chose de désespérant qui m'amène à me questionner sur quelque chose. Et donc j'en arriverai à la deuxième partie de mon bilan, qui sera la dernière. Parce que finalement, j'ai fait comme si, depuis que je vous ai raconté l'histoire d'Auguste Blanqui, j'ai fait comme si les autres moi étaient moi. Ben oui, ils sont exactement comme moi. D'accord ? Quand vous jouez une combinaison de 3 et 4 au dé, vous rejouez une combinaison de 3 et 4, c'est la même combinaison. Au niveau atomique, c'est pareil. Il y a donc une infinité d'autres moi dans l'univers. Voilà ce que je vous ai dit depuis le début. Mais ça me paraît difficilement contestable jusqu'à maintenant. Et puis finalement, en me creusant la tête, je me dis, mais oui, mais ces autres moi, cette infinité d'autres moi, si par un coup de baguette magique on les supprime, ou s'il y en a un qui s'est fait écraser en traversant la route pour venir à l'agora des savoirs, finalement, ça m'est un peu égal. Bon, je peux avoir un peu de pitié, mais bon, vous voyez. Donc finalement, ces autres moi, ils me sont complètement indifférents. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. c'est que ces autres moi ne sont pas moi. Il n'y a qu'un moi. Et donc qu'un vous. Mais alors, ça soulève un problème pour la position réaliste. Parce que la position réaliste me dit que la chose est telle qu'on la décrit. Et oui, je vais décrire un individu comme une combinaison d'atomes. Je ne vois pas comment le décrire autrement. Il est cette combinaison d'atomes. Et donc, il y a une infinité de combinaisons d'atomes identiques. Mais pourtant, par un petit raisonnement d'ordre existentiel, j'en arrive en même temps à la conclusion que non, ces autres moi qui sont identiques à moi ne sont pas moi. Donc je perds pied. Je ne sais plus si ces autres moi sont moi ou pas moi. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un moi. J'ai l'impression en même temps qu'ils sont moi. Donc, je vais en conclure sur cette grosse incertitude. Et je vous convie à y méditer. Et je vous préviens que je n'ai pas de solution. C'est finalement... Qu'est-ce qui fait que je sois moi et que vous soyez vous ? Je vous remercie.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.